Merci de nous écouter. Place à Dialogue entre Congolais avec Kelly Kouté. Bonsoir, situation sécuritaire dans la province et l'Équateur. Affrontement hier dimanche à Mbandaka entre les éléments FRDC et les insurgés MLE. Quelle est la situation aujourd'hui à Mbandaka? C'est le thème du centre de notre débat de ce soir. Trois invités avec moi dans cette émission pour les débats, à savoir Dismas Mangbengu, secrétaire général du gouvernement provincial de l'Équateur. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur Mangbengu.
Bonsoir, madame.
Jacques Njoli, sénateur élu de la province de l'Équateur et vice-président de la commission défense, sécurité, surveillance et frontières au Sénat, dans ce studio avec moi. Bonsoir, sénateur.
Bonsoir, Kelly.
François Ndekouye, analyste politique et économique, il est aussi avec moi dans ce studio. Bonsoir, monsieur Ndekouye.
Bonsoir, Kelly.
Vous êtes nombreux à réagir et mettre vos points de vue sur les thèmes de ce soir. C'est le cas de Ndaora de Bouillon, province orientale. Il est important de mener une enquête sérieuse afin d'identifier les tireurs des ficelles Blanchard Loana de Mbandaka à l'Équateur. Qu'attend l'État congolais pour pouvoir immédiatement mettre fin à cette situation? Parce qu'on a l'impression qu'elle serait en train de négliger de manière délibérée cette insurrection des éléments MLE. C'est comme s'il s'agissait d'une simple blague. Or, elle s'aggrave de plus en plus et cela risque de provoquer des mouvements massifs des populations et enregistrer plusieurs cas de mort si le gouvernement ne réagit pas à temps. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Affrontement hier dimanche à Mbandaka dans la province de l'Équateur entre éléments FRDC et SOGNL. Pour en parler, nous recevons en direct de Mbandaka Henri Lubondo, l'un de nos correspondants dans cette ville. Bonsoir Henri, dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé hier dans la ville de Mbandaka.
Oui, Kelly, il faut dire que la ville de Mbandaka a connu dimanche dernier une situation sécuritaire peu habituelle. Les Aignanais ont investi la ville peu avant 10h alors que la plupart des fidèles s'apprêtaient à aller à l'église. Du coup, plusieurs dizaines de combattants ont débarqué du bateau Malaika au port Bankita. La résidence du gouverneur de province, le bâtiment administratif et l'assemblée provinciale ainsi que l'aéroport ont été attaqués par les insurgés. Pendant presque toute la journée, la situation était confuse. Les Aignanais ont pris le contrôle de l'aéroport de Mbandaka avec armes lourdes et munitions qu'ils ont trouvées à l'aéroport. On a suivi l'échange des tirs nourris entre les éléments des FRDC, appuyés par la MONUC et les insurgés dans la soirée des dimanches, jusque tard la nuit. Les éléments FRDC, avec l'appui de la MONUC, ont réussi finalement à déloger les insurgés après d'intenses combats à l'aéroport.
Est-ce que vous avez une idée sur le bilan de ces affrontements?
Kelly, il est difficile pour le moment de donner le bilan de ces affrontements. Toutefois, selon certaines sources qui ont enrichi l'anonymat, plusieurs corps, notamment des combattants aignanais, jonchent les rues de la ville de Mbandaka, notamment sur l'avenue Libération, non loin de l'aéroport. À la morgue de l'hôpital général de référence de Ouangata, on parle de 14 corps sans vie et de 9 blessés graves et 4 légers qui sont admis dans ce centre hospitalier. La MONUC, de son côté, a reconnu la mort d'un casque bleu ghanéen.
Henri, quelle est la situation sécuritaire à travers la ville de Mbandaka ce lundi?
Oh oui, Kelly, écoutez, il y a lieu de retenir que la situation sécuritaire à travers la ville reste toujours préoccupante, malgré la reprise de l'aéroport par les éléments des FRDC. Les tirs nourris à l'arme lourde se font toujours entendre, même les après-midi aux alentours de l'aéroport, entre les FRDC, toujours appuyés par la MONUC et les insurgés aignanais. Cette situation a poussé le gouverneur de province, Jean-Claude Baïndé, de courter son séjour dans la capitale quinoise. Aussitôt arrivé, Jean-Claude Baïndé a tenu un point de presse dans sa résidence officielle pour rassurer la population de Mbandaka et de ses environs. Toutefois, magasins, écoles, marchés restent fermés. Bref, Mbandaka ressemble actuellement à une ville fantôme.
Merci Henri Lubondo. Mbandaka ressemble à une ville fantôme. Dismas Mangbengu, vous êtes secrétaire général du gouvernement provincial de l'Équateur. Vous venez de suivre le tableau que nous a peint notre confrère Henri Lubondo sur la situation sécuritaire dans votre province. Dites-nous très brièvement quelles sont les dernières informations.
Puis les dernières révélations, c'est comme venait de le dire le journaliste Henri Lobondo, c'est que la situation est relativement calme du fait que les FRDC, c'est-à-dire la force terrestre, la force navale et les éléments de la police nationale, appuyés par les éléments d'AMONUC, ont totalement pris le contrôle de la ville et ainsi que de l'aéroport de Mbandaka. La preuve en est que l'aéroport de Mbandaka cet après-midi a accueilli le gouverneur de province qui se trouvait en déplacement en invitation à Kinshasa et l'avion a atterri sans problème. Mais les tirs nourris qu'on attend, c'est-à-dire les éléments des FRDC appuyés par la MONUC, sont en train de pourchasser les éléments ennemis, les insurgés ennemis, n'est-ce pas, qui se sont enfuis dans la nature. Je crois que c'est un peu brièvement ce que je peux vous présenter comme tableau de la situation des dernières heures.
Maître Desmas, vous dites que la situation est relativement calme. On apprend qu'il y a des pillages qui se commettent par des éléments incontrôlés et par des faits et ceux de la police. Est-ce que vous confirmez cela?
Absolument non, madame, parce que j'ai sillonné toute la ville aujourd'hui et presque tous les quartiers de Mbandaka. On n'en a pas fait allusion, c'est-à-dire parler de pillage. Non. Au contraire, les éléments de la police nationale, de la force navale, de la force terrestre se sont montrés très 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 dignes du fait qu'ils se sont montrés d'abord disciplinés, ils se sont donné corps et âme à pourchasser les ennemis qui ont envahi la ville. C'est contrairement à ce que nous avons toujours vécu dans le rang des FRDC, quand il y a moindre mouvement. Ils se complaisent, n'est-ce pas, au pillage, au viol, mais en tout cas, tel fait n'a pas été cette fois-ci observé à travers la ville de Mbandaka. C'est lui qui aurait peut-être dit, si nous apporte la preuve, si nous dit à tel endroit, il y a tel qui a dénoncé, en tout cas, après vérification, si vous pouvez vous apporter, n'est-ce pas, la confirmation. Mais à ce niveau, les informations n'ont pas été posées parce que nous avons la situation en main. C'est ce que je viens de vous présenter.
Alors, Maître Dismas, comment vous expliquez cette attaque? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, le gouvernement provincial de l'Équateur disait avoir neutralisé ces insurgés ennemis. Comment vous expliquez cette attaque?
Merci, madame. Je crois qu'on n'a pas dit qu'on a neutralisé les éléments ennemis. Si je ne m'abuse pas, il y a 2 semaines, le gouvernement de province a fait une adresse à la population. Il s'est adressé à la population pour leur dire qu'aux alentours de Mbandaka, il a été signalé ça et là la présence des ennemis, notamment à Bobanga, 45 km de Mbandaka, où l'armée, c'est-à-dire les forces, la force terrestre, s'était montrée vraiment espionnage, très fort pour briser l'élan que les insurgés étaient en train de présenter lorsqu'ils avançaient sur Mbandaka. Il en a été caché également à Makanza, tout comme à Lobengo. Et lorsqu'on dit qu'on les a neutralisés, c'est-à-dire à chaque point où ils se sont manifestés, l'armée a fait preuve de ténacité, elle a fait preuve d'efficacité pour venir à bout de l'ennemi, n'est-ce pas, de la paix au Congo. C'est un peu ce qui a été dit. Mais n'oublie pas qu'il y a des complicités certainement dans cette histoire, parce que même les informations sur le bateau de Malaika, n'est-ce pas, est parvenu, mais pendant qu'on remontait sur Nganda Congo pour aller vérifier la situation, voilà qu'ils ont surpris à arriver à Mbandaka. Donc voilà un peu, on n'a pas dit qu'on arrivait, au contraire, le gouvernement provincial en a appelé à la vigilance de la population, il a évoqué le cas de ce qui était arrivé avec les Rwandais à Kinshasa, il a demandé à la population de coopérer largement foncièrement, n'est-ce pas, avec les forces de sécurité pour arriver à dénoncer les ennemis qui se cachaient par-ci par-là, soit en Mbandaka, soit en dehors de Mbandaka.
Voilà, merci Maître Dismas. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour moi de passer la parole au sénateur Jacques Ntoli. Comment vous analysez cette situation d'hier en Mbandaka, sénateur?
Merci beaucoup, Kedi. Ma première pensée avant d'analyser la situation, c'est vers cette population de Mbandaka qui est partie pieusement prier à l'occasion de la fête de Pâques et qui s'est fait surprendre, n'est-ce pas, par cette attaque. Et depuis hier jusqu'au moment où je vous parle, les parents, les amis, le frère sont toujours cloîtrés dans leur résidence. Je ne parle pas de cas de mort, comme il a été signalé, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, et de la mort, n'est-ce pas, des éléments de la MONUC. Donc c'est une situation très préoccupante et qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, et que nous espérons sincèrement que ça va se dégager pour que la population qui est déjà dans une extrême pauvreté, qui ne peut pas, qui n'a pas de réserve, qui n'a pas de ressources, puisse, n'est-ce pas, retrouver la liberté de mouvement et se ravitailler. Ceci étant, nous assistons là à une situation qui dure pratiquement depuis le mois de septembre, depuis les premières attaques de ces mouvements aux environs de Dongo. Le mouvement s'est déplacé sur l'axe Dongo-Gemena. Après, on est allé vers Imessé. On a signalé des attaques maintenant du côté des Kungu, du côté des Bomongo. On nous a dit, on a fait des conférences pour dire qu'on avait neutralisé totalement ce mouvement, que le chef de bande était blessé ou mort, et que ces groupes de gens archaïques, fumeurs de chanvre, n'existaient plus. Après, on les a vus, on a entendu qu'ils étaient à Makanza. Ils ont occupé de manière, n'est-ce pas, provisoire. Après Makanza, on les signalait à Buburu ou sur d'autres fronts. Apparemment, nous sommes en face d'un groupe qui n'a pas des objectifs de tenir totalement un espace et de diriger, mais qui nous fait voir tout simplement que par leur mobilité, ils sont en train de démontrer les faiblesses de notre système de défense et que nous devons réfléchir fortement sur cette question. Au-delà de l'Équateur, comprendre que comment on ne parvient pas à maîtriser les gens de LRA, qu'on dit toujours être des mouvements résiduels, alors qu'ils ont changé de tactique, qu'ils opèrent par de petits groupes. La même chose pour les FDLR, on a dit qu'on les a déstabilisés, mais ils continuent à opérer. Et voilà que les Ényélé, qu'on disait totalement déstabilisés, on a pris des précautions pour mettre des verrous autour de Mbandaka à Lolanga, et voilà qu'un bateau accoste au port de Mbandaka, au port de Bankita, 80 ou je ne sais pas combien de personnes descendent, vont à la résidence du gouverneur, quittent la résidence du gouverneur jusqu'au bureau du gouverneur, quittent le bureau du gouverneur pour aller à l'Assemblée provinciale, quittent l'Assemblée provinciale pour aller à l'aéroport. Madame, sur tous ces axes-là, il y a des camps militaires, il y a des forces supposées à partir du port, parce que la force navale n'est pas très loin. Ils occupent allègrement l'aéroport et ils ne peuvent être délogés aujourd'hui ou hier soir que grâce à l'appui peu de la MONUC, alors que depuis, je vous dis, septembre, on suppose que le Mbandaka est protégé, et c'est ça qui me fait peur sur la fébrilité de notre système défensif, partant sur l'efficacité, la cohérence de ce qui demande le départ de la MONUC, parce que si aujourd'hui la MONUC n'existait pas en Mbandaka, c'est que la ville de Mbandaka et l'aéroport de Mbandaka seraient toujours occupés. Voilà un peu la situation, c'est qu'elle analyse, et j'espère vraiment que ce que dit notre frère Mangungu est réel, parce que maintenant on nous signale des tirs plus ou moins isolés des hommes en armes dans la ville, et ce qui fait craindre des débordements. Il faudra donc que des mesures soient prises pour éviter, n'est-ce pas, cette divagation des éléments FRDC. J'espère, comme l'a dit notre frère Mangungu, que cette fois ils sont preuves de discipline, parce que le combat se déroule du côté de l'aéroport, et qu'il faut laisser permettre à la population sur le plan humanitaire de retrouver, n'est-ce pas, sa mobilité, afin que ceux qui étaient partis à l'église, qui sont encore bloqués dans le procure et dans les couvents, puissent rentrer à la maison et retrouver la paix à laquelle le peuple de Mbandaka aspire.
Merci, sénateur. François Jekouillé, vous êtes analyste politique et économique. En tant qu'analyste, comment vous analysez ces événements de Mbandaka?
Oui, merci Kelly encore de donner la parole pour m'exprimer au peuple congolais à travers vos antennes. Vous savez, quand ces événements de Dongo, parce que c'est par là que cela a commencé, vos collègues m'ont appelé pour me demander si j'avais un point de vue à émettre. Moi, je dis, écoutez, je suis économiste, je suis expert en analyse politique, je suis environnementaliste, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à voir avec les pêcheurs qui se disputent des étangs. Quelques temps après, on pourra savoir qu'il y avait 180 000 personnes qui s'étaient déplacées jusqu'au Congo-Brazzaville. Là, je commençais à prendre la mesure de la chose. Et plus tard, des Mandaka, ou plutôt des Dongo, on nous signalera qu'il y avait des affrontements à Makanga. Et plus récemment, on nous fait savoir qu'il y a eu des problèmes à Bomongo, si je dis bien les mots, parce que je fréquente très peu la province de l'Équateur. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave. Hier, en étant à la maison en train de fêter la Pâque en famille, on a appelé un ami qui était chez moi pour lui dire que les redocs de Mandaka n'étaient pas accessibles. Et plus tard, on nous dira que l'aéroport de Mandaka a été pris et les mouvements se dirigeaient vers chez le gouverneur de province. Pourtant, je suis quelqu'un qui suit très bien l'actualité congolaise. J'ai suivi le gouverneur de la province de Mandaka au sortir d'un entretien avec le ministre de l'Intérieur. Voilà ce qu'il disait. La rébellion a pris fin dans ma province. On ne parle plus d'insurgés ignélés comme une bande organisée, mais bien plus comme un résidu des bandits ou des gens qui errent à la quête des moyens de survie. La province vit actuellement dans la tranquillité. Ce sont les propos du gouverneur de province. Doit-on dire que le gouverneur de province ignorait la force de frappe de ce mouvement ou il est naïf? Mais au-delà de ça, les bateaux qui ont amené les forces ignélées à Mandaka, selon les informations à notre disposition, venaient de Kinshasa. Comment les forces de sécurité ont laissé embarquer des personnes dans un bateau avec probablement des armes et sans les moindres contrôles? Comment les pêcheurs de Dongo qui se disputaient les étangs sont devenus subitement des hommes capables de manier les armes de guerre, à moins qu'on nous dise qu'ils sont allés prendre l'aéroport de Mandaka avec hameçon et filet? Donc, nous disons qu'il y a des gens qui manipulent ces personnes, il y a des gens qui sont derrière eux. Et c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui au-delà de constater les faits. Je pleure, je regrette avec tous mes frères congolais ce qui s'est passé à Mandaka. Il y a eu des morts d'hommes, il y a des personnes traumatisées. Je suis quelqu'un qui suis habitué à ce genre de situation parce que je suis originaire de l'Est du pays. J'ai perdu des frères, des amis dans les guerres à l'Est. J'en sais quelque chose. Donc aujourd'hui, la tendance malheureuse est de minimiser les faits. Et je crois que toutes les rébellions qui ont commencé dans ces pays ont commencé par des faits anodins. Vous vous rappellerez, l'Afdel a commencé par une prétendue révolte de Banyamulenge. Cette révolte de Banyamulenge a amené l'Afdel jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, on nous a parlé des pêcheurs qui se disputent les étangs, et demain, on va nous apprendre qu'il y a une nouvelle rébellion qui est née à l'Équateur. Qui sont les tireurs de ficelles? C'est la question qu'il faut qu'on se pose, parce que notre ami Dismas a dit qu'il y a des complicités. De qui? Il doit nous dire. Ce sont des personnes qui sont appelées à gérer l'État ou qui gèrent l'État au quotidien, au moins dans la partie provinciale. Qui sont ces complices? Il faut qu'on nous dise qui sont les complices qui ont permis à ce que cela puisse se réaliser. Mais au-delà de cela, nous savons quand même entre nous qu'il y a des frustrations qui existent aujourd'hui dans la province de l'Équateur. Il faut qu'on le dise. Nous avons choisi dans ce pays la forme des élections proportionnelles pour permettre à ce que, venant des guerres, tout le monde puisse co-gérer l'État d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, à l'Équateur, au moins après les élections, on s'est rendu compte que c'est le MLC qui était le parti majoritaire qui a réussi à avoir plus de députés. Mais on s'est rendu compte que, par des manœuvres diverses, on a réussi à y mettre un représentant de l'AMP pour gérer la province. Est-ce que les problèmes ne viendraient pas de ce côté-là, cette frustration qui existerait par la population équatorienne qui aurait voté massivement à l'MLC et qui se sent frustrée aujourd'hui de se voir dirigée par des personnes qui n'ont pas l'élu?
c'est une question que je me pose.
En conclusion, rapidement.
Oui, conclusion, je pense que nous devons chercher les causes de tous côtés. Et c'est la dernière question que je me pose par rapport à en concluant, c'est comment ces événements arrivent aujourd'hui au moment où la RDC est en train de discuter sur un départ progressif de la MONUC. Et on voudrait que la MONUC puisse être délocalisée vers l'Est. Et curieusement, à l'Ouest, on voudrait laisser libre et il se passe encore des événements. Est-ce que c'est parce que l'armée congolaise est fragile ou parce que certaines personnes veulent montrer que l'armée congolaise est fragile pour pouvoir rester encore au Congo? C'est une question que je me pose.
Voilà, merci François Nzekoui et Maître Dismas Mangbengo. Plusieurs questions ont été soulevées. Vous avez suivi l'analyse du professeur Njogi et de notre analyste François Nzekoui. Parmi les questions, il y a celle de savoir comment vous expliquez que ces émêlés accostent dans un port public, assiègent l'Assemblée provinciale, se dirigent vers la résidence du gouverneur et prennent possession de l'aéroport sans que nos forces armées ne puissent réagir. Comment vous expliquez cela?
Oui, merci madame. Avant de répondre directement à cette question, je voulais d'abord relever un point important sur ce que le professeur Njoli, mon frère Jacques Njoli venait de dire, et réagir aussi à un ou deux points, n'est-ce pas, de l'analyse politique Nzekouyé, et ensuite en arriver à la question que vous venez de me poser. Si vous le permettez, madame, le professeur Njoli, en bref, a stigmatisé la faiblesse du système de notre défense nationale. Et ça me met très bien à l'aise parce que le professeur Njoli, dit-il, est en train de diriger une commission de la défense au niveau du Sénat. N'est-ce pas? Et qu'il doit savoir que c'est bien de critiquer, alors qu'il est en train, n'est-ce pas, de diriger cette commission qui doit apporter la solution à cette faiblesse. Et voilà, il s'est complet tout simplement à dire que le système est faible. Nous constatons, il y a le problème de LRA, il y a des choses qui ont commencé à Dongo, qui ont évolué jusqu'à atteindre Mbandaka. Donc, c'est bien beau de dire qu'il y a une faiblesse, oui, mais je crois que nous devons nous impliquer pour que cette faiblesse quitte, parce que c'est un danger commun. Vous pouvez vous rappeler, le professeur se le rappelle, que le président de la République a invité les sénateurs originaires de la province de Bateur pour parler de cette histoire, les charger, leur demander, solliciter leur contribution afin que cette situation connaisse une fin rapide et que la province de Bateur puisse unir, n'est-ce pas, comme par le passé, l'ère de la paix. Mais rien, jusque-là aujourd'hui, on n'a jamais vu, parce que vous savez, c'est une jolie qui est sénateur, il a le pouvoir, n'est-ce pas, d'interpeller même le gouvernement central lorsqu'il voit que le système, à tel ou tel autre point, ne marche pas. Mais il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, en gros, lorsque surgit un événement, bon voilà, il y a une faiblesse. Mais qui viendra alors mettre fin à cette faiblesse si ce n'est pas Jacques Njoli qui dirige la
police
de sécurité? Oui, j'en passe.
Oui, rapidement.
Je veux passer. Oui, je passe. J'en arrive à l'analyste politique, mon frère Nzekouye. Écoute, qui dit, bon, s'il y a des complicités, il faut les citer. Mais récemment, il n'y a pas 2 semaines, un député, un MLC, député provincial, a été arrêté. N'est-ce pas, parmi tant d'autres qui vont être interpellés d'un moment à l'autre. A été interpellé, il a été amené à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui n'a pas été soulevé comme réaction à travers, non seulement les députés nationaux, n'est-ce pas, du MLC, et aussi même parmi la population?
Oui, Maître, est-ce que vous pouvez répondre le nom à ma question?
J'en arrive, madame. Ce sont des points très importants.
On n'a pas beaucoup de temps. La population veut comprendre.
Oui, la population comprendra parce qu'on a même évoqué le problème de frustration. Et quand on évoque les frustrations, nous renvoyons que parmi ceux qui se disent frustrés, parmi ceux qu'on croit qu'on a rendu les pouvoirs par la force, voici ce qu'ils font. Et nous, surtout le nom, lorsqu'on les arrête, vous soulevez le pont des droits de l'homme. N'est-ce pas? Et quand on les arrête, on dit, il faut citer lesquels. Ok. Alors, je reviens maintenant à la question. Vous posez la question de savoir comment expliquer que les forces des insurgés niais ont pris calmement le bateau, ils ont descendu à l'aéroport, ils ont visité la résidence du gouverneur, le gouvernorat, ils sont passés par l'Assemblée provinciale, même à travers tout un camp militaire, et puis pour atteindre, je crois que, je veux vous dire que madame, le gouvernement provincial de l'Équateur a fait son travail. Et lorsqu'il fait des déclarations, c'est en connaissance de cause. Et vous savez que la défense et l'intégrité du territoire relèvent du pouvoir central. Le pouvoir central ou le gouvernement central, que le professeur Jacques Ndioli est capable d'interpeller lorsqu'il voit que les faiblesses dont il fait allusion, n'est-ce pas, ne semblent pas être remontées, ne semblent pas être rectifiées. Alors, je continue. C'est-à-dire, on avait suffisamment des informations qu'il y a un bateau qui est passé par Makanza qui n'a pas voulu s'arrêter. Et la force navale a quitté Mbandaka pour rejoindre Makanza et pour suivre ce bateau. Arrivé à Makanza, on leur dira que non, ce bateau est passé par l'Nganda Congo. Ils arrivent dans l'Nganda Congo, ils devaient arriver à l'Nganda Congo aujourd'hui, ils apprennent que déjà, ils devaient arriver aujourd'hui, mais hier, ils apprennent que le bateau est déjà à Mbandaka. C'est-à-dire, les effets de surprise, n'est-ce pas, ne manque jamais, parce qu'on peut tout prévoir, on peut tout prévoir, mais parfois on ne prévoit pas tout. Et lorsqu'ici, il y avait des éléments à travers, n'est-ce pas, à travers le port, et ces éléments qui sont arrivés étaient en surnombre. Mais quelle était la solution? La meilleure solution, c'est de les laisser entrer, même ceux de l'aéroport. On ne pouvait pas descendre l'aéroport tout en restant dans l'aéroport. Ils se sont tout simplement retirés de l'aéroport pour répondre à l'aéroport de meilleure manière après avoir coordonné toutes les forces qui opéraient sur le terrain.
Voilà, mais quand dites-moi, si je vous comprends, donc c'était une surprise cette attaque des ennemis. Voilà, c'est ça. Encore.
Oui, encore. Pour le dimanche, c'était une surprise parce que cette fois-là, là où on les attendait, c'est pas là où ils sont passés, n'est-ce pas? Et là où ils sont passés, c'est pas, mais c'est là où on les attendait le moins.
Voilà, ok.
Mais le plus important est que les forces qui s'attendaient à pareille attaque, n'est-ce pas, s'est réorganisée rapidement pour répondre à la situation. Mais c'est le plus important.
On vous garde encore dans cette émission en rapport avec cette situation. La MONUC et les FRDC travaillent ensemble pour renforcer le contrôle de la ville de Mbandaka par les militaires loyalistes. Ceci ressort d'une réunion d'évaluation de la situation au chef-lieu de l'Équateur par le gouvernement central et la mission onusienne au Congo, réunion qui s'est tenue ce lundi à Kinshasa à la primature. Selon le ministre Maje Kissimbangoy, le gouvernement va renforcer les troupes en présence à Mbandaka. Au micro d'Emmanuel Mbanda, Maje Kissimba revient sur le CDR et donne les bilans des affrontements.
Comme vous le savez, il y a eu un groupe d'insurgés qui se sont infiltrés dans un bateau en provenance de Kisangani, bien sûr en passant par la France de l'Équateur pour Kinshasa. Ils sont accostés à Bakita et ils ont tenté d'investir les résidences du gouverneur et du vice-gouverneur, l'Assemblée provinciale ainsi que l'aéroport. Nos FRDC alertés ont pris la mesure de la situation. Au moment où nous parlons, des éléments de la MONUC ainsi que d'un contractuel FRDC qui ont 4 vaillants soldats. Il y a la police nationale où il y a 2 policiers qui sont décédés. Nous précisons également du côté des insurgés qu'il y a eu 9 morts.
Du côté de la MONUC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC confirme l'organisation des actions communes MONUC-FRDC. Leila Zerougui confirme aussi un appui logistique pour renforcer les capacités des FRDC pour sécuriser la ville et la population. Il faut signaler aussi qu'une mission commune du commandant des forces de la MONUC et du chef d'état-major FRDC à Mbandaka est annoncée. Sénateur Jacques Ndioli, maître Dismas vous a cité pendant qu'il faisait ses analyses. Vous êtes vice-président de la Commission Défense et Sécurité au Sénat. Qu'est-ce que vous faites pour la province et l'Équateur pour mettre fin à cette situation?
Je crois que Maître Mangungu n'a pas oublié son droit, c'est tout le droit constitutionnel. Il sait que ce n'est pas le sénateur qui, n'est-ce pas, conduise l'exécutif, n'est-ce pas? Donc la défense, il y a séparation du pouvoir. Et le rôle du sénateur, c'est un, légiférer, deux, contrôler. Et je crois que lui-même, M. Mangungu, qui suit quand même les activités sénatoriales, sait que nous ne sommes pas parmi les sénateurs dormants, n'est-ce pas, des autres assemblées. Ceci dit, je voudrais revenir aux choses essentielles, c'est-à-dire la problématique de la défense du territoire. Nous avons toujours dit que la priorité des priorités de notre pays, c'est la réforme des forces armées. peut pas s'appeler État si on n'a pas une force armée compétente, efficace. Et à ce sujet, depuis que nous sommes au Sénat, nous avons toujours interpellé tous les ministres qui passent pour nous présenter le plan de réforme des forces armées, qui jusqu'à ce jour reste un niveau de projet et que nous n'en avons pas encore. Et ça, c'est un dépendance très grave, n'est-ce pas, de notre exécutif. Ça, c'est un fait. Alors, heureusement que M. Mangungu reconnaît qu'il a été, ils ont fait l'attaque qui était une attaque surprise, mais c'est justement la tactique utilisée par ces hommes. Ils sont très mobiles, ils opèrent par des petits groupes, c'est en fait les guérillas, la guérilla. Donc, il faut déployer des moyens conséquents pour faire face, n'est-ce pas, à ce type d'attaque. Donc, ils sont à Lobengo, ils arrivent à Mobeka, ils sont à Ganda, Congo, mais il faut déployer le moyen. Bandaka était supposé être sanctuarisé. Or, on a atteint, n'est-ce pas, cet sanctuaire, et c'est pas ce qui nous fait très mal. Alors, pour nous, pour cette question, comme pour l'ensemble des questions, il y a, comme a dit l'auditeur au début, c'était pas une négligence, mais des faiblesses. Je ne dirais pas la naïveté, comme l'a dit à bon escient d'ailleurs mon voisin M. Ndekouye, mais on sent que on ne prend pas, on n'a pas les outils de compréhension réelle de l'enjeu en présence. Ces hommes ne sont pas venus prendre la vie de Mbandaka pour mettre un gouvernement. Ils sont venus démontrer qu'ils peuvent attaquer là où ils veulent et quand ils veulent, et sortir. C'est ça la problématique. Donc, ceci étant, il faut que nous puissions réexaminer nos outils de compréhension des conflits qui se passent sur notre territoire et adapter notre outil de défense. Alors, il y a un élément sur lequel, qui est aussi très important, sur lequel mon voisin est revenu, la frustration. Il y a une gouvernance erratique dans la province de l'Équateur. Vous savez, deux jours avant que ces rebelles attaquent à 10h du matin, madame, le service de sécurité, les REDOC, la police et les autres services étaient préoccupés à aider un groupe, n'est-ce pas, des députés provinciaux à casser le bureau du président de l'Assemblée provinciale, à récupérer des voitures pour des problèmes, des intérêts de pouvoir locaux qui ne les ont pas permis de se préoccuper des vrais enjeux sécuritaires. Nous disons bien que le REDOC, nous disons bien que la police nationale, nous disons bien que des membres du gouvernement étaient préoccupés à faire chasser, à installer des bureaux de manière anarchique, alors que nous sommes dans un état de droit. Donc, un système de défense est fortement fragilisé lorsque le système politique est totalement dévoyé. C'est ce qu'a dit notre ami, la frustration. Il ne s'agit pas simplement de trouver les tireurs de ficelle, mais il faut les tirer, il faut les attraper suivant les règles de procédure. Nous n'avons pas dit qu'on ne peut pas arrêter un député qui se serait, n'est-ce pas, fourvoyé dans des problèmes politiques ou de sécurité. Mais la manière de l'arrêter, il y en a. On ne peut pas aller l'enlever. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais su, nous ne savons pas où se trouvent ces députés. Donc, on l'a pratiquement arrêté en violation de règles. C'est tout ce que nous faisons. Au moment où je vous parle, et Mangungu vient de le dire, on a encore commencé à arrêter. Au moment où je vous parle, il y a un directeur de la radio locale, Radio Mambenga, qui est interpellé par les services de sécurité, tout simplement parce qu'il y a un mois ou deux mois, il aurait fait un papier où il dénonçait justement ses faiblesses. Donc, voilà le mode de gouvernance qui est instauré sur base de tout ce que nous avons toujours dit, une majorité factice, magmatique, fabriquée sur fond d'une gouvernance des violences, et cette violence, nous l'avons toujours dénoncée. On ne règle pas des problèmes politiques par des approches militaristes, mal d'ailleurs fagotées, mais par une approche globale pour comprendre quelles sont les causes de cette situation, quelles sont les réponses politiques, militaires, policières et administratives qu'il faut donner. On parle d'un conflit d'État, d'un problème de chef de secteur pour arriver à des problèmes de sécurité majeurs. Ça, c'est de un. Et je voudrais dire qu'en définitive, il y a un problème de la stratégie nationale de sécurité post-électorale qui se pose aussi bien à l'Équateur que sur l'ensemble du territoire, sur lequel nous devons réfléchir, au-delà de chercher à défendre sa petite chapelle ou son petit poste.
Merci, sénateur. François Ndekouye, il y a cet auditeur Jean-Désiré Kabit qui nous écrit depuis le Canada. Il dit ceci, les affrontements survenus entre les Ennélé et les FRDC ont été directement précédés des actes posés par des députés provinciaux et ont conduit à l'installation d'un nouveau bureau de l'Assemblée provinciale. Peut-on établir un lien entre les deux événements? N'ont-ils pas été préparés simultanément? Ces députés ne sont-ils pas impliqués? Est-ce qu'ils cherchent l'indépendance? Comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, les sénateurs, je lui venais de répondre à cette question avant qu'elle ne soit posée. Pour dire que ces actes inciviques de certains des députés provinciaux de la province de l'Équateur ont distrait effectivement les gens qui sont chargés de sécuriser la province.
Est-ce qu'on peut lier les deux événements?
Si, je crois qu'il y a une liaison, à mon avis, parce que je ne crois pas que l'attaque des Niélé soit quelque chose de non préparé. C'est quelque chose qui a été sérieusement préparé. Et comme l'a dit Dismas, il y a eu des complicités, même s'il ne veut pas nous dire lesquelles. Et moi, je voulais plutôt demander à qui profitent les crimes. Parce qu'en criminologie, c'est par là qu'on procède. Quand vous voulez attraper un criminel, on se dit, écoutez, la première question qu'on se pose, à qui profitent les crimes? Ces crimes, malheureusement, profitent à beaucoup de personnes. Je vais vous dire dans l'ordre. Dans l'armée, il y a des personnes qui gagnent en temps de guerre. Ces personnes-là pourraient bien être instigateurs de tels événements, même s'ils ne sont pas nécessairement de l'Équateur. Bien évidemment, aujourd'hui, l'armée est dirigée par un ressortissant de l'Équateur. Mais cela ne veut pas dire que c'est nécessairement à ce niveau-là que le problème se pose. Mais nous savons que chaque fois qu'il y a des guerres, il y a des amis d'audit des dépenses de l'armée pour savoir combien réellement a été dépensé. Et la presse internationale a souvent critiqué le fait que nos militaires sont clochardisés. De deux, il y a l'opposition extérieure. Vous savez qu'il y a une certaine opposition en Europe qui ne jure que par l'échec du gouvernement actuel. Et ces personnes, malheureusement, se recrutent beaucoup plus dans les ressortissants de l'Équateur. Je ne veux pas les citer, ce n'est pas le propos de ce soir. Mais aussi, il ne faut pas l'occulter, il y a des fanatiques de Jean-Pierre Bemba qui seraient bien contents de voir les cinq chantiers du chef de l'État échouer pour dire, voilà, vous avez voté pour notre adversaire politique, et voilà, qui n'arrive pas même à maintenir la sécurité dans l'État congolais. Mais n'oubliez pas que cela peut venir aussi de la majorité, parce que, étant donné que les cinq chantiers ne viennent que de commencer, vous avez entendu des discours des experts, entre guillemets, c'est pas en quoi sont-ils experts, qui ont proposé à la commission interinstitutionnelle que l'on puisse changer le mandat du chef de l'État, que l'on puisse logiquement les prolonger si on le change, c'est-à-dire qu'on veut arriver à un certain an pour pouvoir réaliser les choses. On peut dire aujourd'hui, écoutez, comme l'opinion n'est pas favorable à cela, créons une guerre qui va faire en sorte qu'on va aller dans un état d'urgence et qu'on ne puisse pas organiser les élections dans les jours qui viennent. Donc, je crois que les pistes sont très ouvertes pour pouvoir examiner d'où vient ces insurgés. Parce qu'il est inadmissible, comme je l'ai dit au début de cette émission, que des agriculteurs deviennent subitement des hommes en armes. Mais les problèmes qui se posent aussi, ce sont les conséquences sur les populations. Le potentiel ce matin nous a fait savoir que 60 bateaux et embarcations sont bloqués à Kinshasa pour l'homme de sécurité. Vous savez très bien que le fleuve constitue la voie de communication qui dessert beaucoup de populations, tant à l'Équateur, au Kasaï, qu'à la province orientale. Si aujourd'hui on ne peut pas approvisionner ces provinces en produits manufacturés par les bateaux, vous condamnez toutes les populations riveraines à une situation de disette ou de difficulté. Et il y a une autre cause, comme je l'ai dit.
Oui, François, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 6 minutes pour mettre ça en émission.
Je voulais terminer par cela. Je crois que nous devons éviter, comme je l'ai dit au départ, des frustrations avec cette fameuse révision constitutionnelle qui risque de créer de nouvelles rébellions inutiles. Je crois que dans une démocratie, nous devons apaiser tout le monde et faire en sorte qu'on respecte les règles du jeu
pour que nous puissions cheminer ensemble dans la paix pour un développement de la République.
Voilà, merci François Dekouye. Je vais lire rapidement quelques réactions des auditeurs. Sikiri Saïdi Fati Douvira au sud Kivu, le gouvernement provincial de l'Équateur, peut-il confirmer que la descente effectuée par le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major le mois passé à l'Équateur a produit des fruits? Ou Chai Babi de Bounou en province orientale, il faut que le gouvernement entreprenne un processus pour parler avec les Ennélés pour comprendre leurs préoccupations. Les armes seules ne peuvent pas régler ce problème. Augustin de Kinshasa, un conflit des temps à caractère interethnique à Dongo avant-hier, Makanza hier et Mbandaka aujourd'hui. Mais voilà que les Ennélés pauvres peuvent acheter des armes, occuper Mbandaka et rôder autour. Que cache cette situation? Urbain Kokorolan de Debouni en province orientale, je pense que le gouvernement ne traite pas cette situation avec autant d'intérêt qu'à Rukia. Il est par exemple inconcevable qu'une ville comme Mbandaka soit attaquée sans que les forces de sécurité et les services secrets n'aient vu venir quoi que ce soit. Voilà, Maître Dismas Mangengu, nous sommes presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que cette province retrouve toute sa quiétude et puis mettre fin à cette situation?
Merci madame. D'abord, avant de donner le mot de la fin, je réagis tout de suite au Poisson Joly, parce qu'il peut se rappeler que dans un passé très récent, avec sa dame, le fils du maréchal, avec qui il a profondément travaillé.
Si vous pouvez mettre
des deux, je termine, madame, je termine. Et des deux, on ne peut pas évoquer les droits dans une question portant sur l'insurrection armée. Là où les armes parlent, madame, le droit se tait. N'est-ce pas? Jacques Ndoli n'a pas à dire, non, pour arrêter que Réchi a pris les armes, il faut l'interpeller, il faut le désonimiliser. Non! Mais non! Mais c'est une question, la sécurité des hommes et de leur bien n'a pas de prix. Lorsque quelqu'un a pris les armes, il faut les traiter comme tel. Même la chaussée de Guantanamo, madame. C'est le moment aujourd'hui qu'on commence à analyser pour faire au cas par cas Guantanamo. Situation suivie par les États-Unis d'Amérique. Je crois que le premier problème, ils l'ont dit, et Jacques Ndoli du MLC, je comprends maintenant la situation dans laquelle se trouvent les gens du MLC face à cette rébellion. Ils sont tout simplement conscients que des actes pareils, chaque fois qu'ils sont posés, ça les réconforte.
Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, pour revenir à la paix, les gens de l'Équateur, de la population de l'Équateur, les originaires d'abord. Parce que les gens qui meurent, ce sont nos frères qui meurent. Et ce sont nos électeurs de demain. Demain, nous viendrons pour nous autres.
Oui, mais donc, qu'est-ce qu'il faut
nous
faire?
Nous devons prendre conscience de cette situation. Nous d'abord. Même si le gouvernement central, il y a des négligences, même si à n'importe quel niveau, l'État en général, il y a des négligences, mais nous-mêmes, nous devons prendre la situation en main pour aider le gouvernement et le provincial et le gouvernement central à régler rapidement cette question.
Merci, Maître Dismas Mangengu. Sénateur Jacques Joly, votre conclusion?
Je ne veux pas suivre M. Mangengu dans cet égarement. Je voudrais simplement lui dire que le gouvernement provincial a failli au moment où ces gens accostaient à 5 mètres de la résidence du gouverneur, le gouverneur était en divagation à Kinshasa. Le commandant des opérations, le commandant des régions n'était pas à l'Équateur, il était à Guébina. Son adjoint est à Kinshasa. Il n'eût été la MONUC, la ville de Mbandaka serait encore occupée aujourd'hui. Donc, un peu de modestie et un peu de respect pour la population de l'Équateur. Deuxièmement, la situation est très sérieuse, madame. Parce que lorsque le chef-lieu d'une province tombe dans le main des assaillants, il faut se poser des questions de fond et non rester dans des divagations tout à fait erratiques de notre âge. Et aujourd'hui encore, madame, il y a 180 000 Congolais qui sont en exil. Voilà la vraie préoccupation. Comment résoudre la question politique, administrative, technique et diplomatique pour résoudre toute la question de l'insécurité sur l'ensemble du territoire et surtout la province équatoriale?
Merci, sénateur. François Dekouye, en 20 secondes.
Oui, en 20 secondes, j'interpelle tous les policiers congolais pour les faire savoir que la paix est encore fragile à la RDC et qu'il faut éviter des frustrations. Évitons les problèmes de révision constitutionnelle qui fâchent. Identifier les tireurs de ficelles et demander à tout le monde de respecter la démocratie.
Voilà, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu, Alain Hong, Samuel Kachak et Aimé Kamoua, sous la supervision de Ben Kabamba, Kéline Couture vous a présenté cette émission. À la technique, c'était Sylvain Matundu. Retrouvez-la sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon type de programme sur la fréquence de la paix.